Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on va vous parler des 7 nanomètres de Huawei, on va parler de Uber pour le ménage qui pourrait être Uber, d'une étude qui montre que les inégalités se sont accrues dans l'enseignement avec le Covid et de tout plein d'autres actu tech passionnantes. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et nous sommes en septembre 2023, c'est l'épisode numéro 530 et je suis ravi de recevoir pour cet épisode animé Cédric Ingrand. Comment vas-tu Cédric?
Écoute, ça va comme un jour de pluie parce qu'on fait ça donc un mardi et il fait un temps absolument dégueulasse. On est passé directement de l'été caniculaire à l'automne, c'est voilà, la déprime arrive.
Écoute, moi je reviens d'un week-end à Nice, enfin à Opio plus précisément. Mmh. J'étais pour l'anniversaire d'un ami au Club Med, figure-toi, pour la première fois. C'est marrant, hein, le Club Med, il y a vraiment deux parties du Club Med. Il y a la partie pour les gens qui aiment, tu sais, les cafés-jeux, les aquagymes sport avec animation, genre « Ouais, on y va, qui veut faire le blind test de truc ?»« Toi t'es trop fort, machin !» Et il y a l'autre partie du Club Med, il y avait genre la piscine zen au milieu de l'oliveraie, absolument sublime. Avec la piscine zen, c'est là où il n'y a pas d'enfants et on n'a pas le droit de parler fort. Je peux te dire qu'on
ça, tu sais que là, tu es en train de reprendre juste les arguments de la campagne de pub. Hein. C'est le bonheur si je veux, tu vois ce que je veux dire. Club Med, c'est ça. Hein. Le bonheur si je veux.
C'est ça. Donc, on a fait 2 jours au Club Med. Tu sais, c'est suffisamment pour commencer à rythmer tes jours de vacances avec la bouffe. Genre, tu finis le petit déjeuner, tu commences à penser quand arrive le déjeuner, etc. C'était très sympa. Et après, on est allé à la... Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la Méditerranée. Et moi, comme j'aime le dire à ma femme scandinave, je suis un enfant de la Méditerranée, vois-tu. J'ai grandi avec la mer. Et on est allé... on pensait reprendre le train pour Paris depuis Nice. Finalement, il nous a emmenés à Cannes. Visiblement, c'est mieux, c'est plus facile, c'est plus simple. En plus, il y avait l'Ironman à Nice. Et on avait de l'avance, donc on est allé. Je me suis dit, je vais du coup, parce que Opio, c'est dans les montagnes, donc il n'y a pas la mer. Je me suis dit, je vais aller à la mer, je vais aller sur la plage et mettre les pieds dans l'eau, tu vois. Donc, on est allé sur la croisette de Cannes. Et j'avais déjà été une fois à la croisette de Cannes, et ça a confirmé ma première impression. C'est l'horreur, ce truc. Mais c'est l'enfer sur
Pourquoi
Terre, la croisette. Mais c'est dystopique. Il y a beaucoup de gens sur la plage, mais ça, c'est normal. Mais par contre, tu regardes la mer, c'est littéralement une mer de yachts, de bateaux. Il y avait un immense bateau de croisière, mais un truc qui te prend la moitié de l'horizon.
Mais oui. Mais c'est calme, monsieur.
Horrible, mais c'est horrible.
Horrible. Moi, je ne sais pas, je ne suis jamais allé à Cannes que pour travailler, tu vois, pour soit le Festival de Cannes, soit des salons, soit voilà. Et donc, oui, j'en ai pas une image très, j'ai pas une image très romantique de Cannes, tu vois, c'est pas... Mais c'est sympa d'aller déjeuner sur la plage, quoi.
Oui, mais il y a d'autres endroits où tu peux déjeuner sur la plage, tu vois. Je suis originaire de Cannes, je suis totalement d'accord, Patrick. Et c'est effectivement que des touristes, que des boutiques de luxe, mais enfin, c'est le parc d'attractions complètement fake et moche. Et enfin, bref. Bon, par contre, après.
C'est beau, un esprit qui s'éveille parce que t'es juste en train de décrire Cannes. Enfin, tu vois,
complètement. Je savais pas. Enfin, si, j'y étais déjà allé une fois pour le boulot aussi et c'était un petit peu l'impression, mais elle est confirmée.
Chapitre suivant, c'est tu veux dire que la Tour Eiffel à Las Vegas n'est pas la vraie Tour Eiffel?
C'est un peu ça, ouais. Ou alors, les Parisiens ne sont jamais montés à la Tour Eiffel, ce qui était vrai pour moi jusqu'à genre...
Ce qui est totalement vrai, ça, je peux te le raconter. Moi, qui suis assez vieux pour faire mon service militaire, j'étais l'un des rares Parisiens dans un régiment parisien, et tous les autres étaient soit des Bretons, soit des gens des Dom-Tom, soit etc. Et donc, évidemment, la ville de Paris, un jour, nous avait offert des tickets pour aller, etc. C'était la honte totale, parce que tous les Bretons, ils avaient bûché, ils connaissaient le nombre de marches, le machin, l'année du truc et tout. Moi, je disais, c'est la Tour Eiffel, quoi. Enfin,
Ouais, c'est ça.
Elle c'est
est...
normal.
Alors, je crois qu'elle est en fer, enfin, en métal, en tout cas. Hein, voilà. Et,
voilà.
Mais après, autre fierté française, je suis monté dans un Ouigo, figure-toi, pour venir à Paris. Et j'attendais, vu ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux, on revient un petit peu à la tech, vu ce qu'on en lit sur les réseaux sociaux, j'attendais là encore l'apocalypse. Je me suis dit, ouais, ça va être horrible, ça va être... C'était génial! Tu montes dans le train, le train, en 5 heures, il t'amène à Paris, c'est incroyable.
Ouais, ça, c'est bien.
Enfin, tu sais, on était à midi à Cannes, et là encore, mm-hmm, bah oui, c'est le TGV. 5 heures plus tard, on était au cœur de Paris, mais c'est incroyable. On a traversé la France en 5 heures.
Non, mais ça, c'est magique.
Machin.
C'est un truc que le monde nous envie, à part quelques pays. Ah oui. Je sais pas, le Japon que tu connais bien. Oui. J'ai une histoire géniale. La dernière fois que je suis allé à Cannes, je suis allé en train, mais je passais par Avignon, j'avais des choses à faire. Et il y a une magnifique gare TGV à Avignon, et on attendait, je sais pas si c'était un TGV, mais enfin un train pour faire Avignon-Cannes. Et à côté de moi, il y avait un couple de Japonais, genre la soixantaine, très bien mise, avec, tu vois, joli costume, machin, etc. Enfin, très beau. Les Japonais qui voyagent sont souvent très beaux. Et arrive l'heure annoncée.
Pays, tu vois,
arrive l'heure annoncée du train. Et le train n'arrive pas.
La panique.
Mais si, non, voilà. Et c'est, les Français qui sont là regardent l'heure, disent il va arriver. Enfin, tu vois, il y a pas d'annonce particulière, il y a rien sur les panneaux de particulier, mais il va arriver. C'est une question de minutes. Enfin voilà. Et puis il se passe une minute, deux minutes, et là je vois le trouble qui commence à se lire dans les yeux du monsieur japonais qui a sa jolie petite valise à rouler à côté de lui, et très discrètement, comme si tout le monde le regardait alors que personne ne le regardait à part moi, il va chercher dans sa poche intérieure, il sort le billet de train. Et je le vois regarder le billet de train, lever les yeux vers le panneau, vérifier l'heure, rebaisser vers le billet de train, le remettre dans sa poche, mais avec l'air... Il y a un problème.
Que se passe-t-il ?
Si t'es japonais, un train qui n'arrive pas à l'heure, c'est qu'il y a eu une catastrophe naturelle majeure et qu'évidemment, on t'a tenu au courant. Et là, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien, etc. Bon, finalement, il est arrivé, mais tu vois, au bout de 5 minutes. Le trouble, le visage de ce monsieur, le pauvre, j'avais envie d'aller le voir en lui disant « Non, mais tout va bien, gomen nasai
». Eh bien, voyez-vous, bienvenue dans cet épisode de La vie incroyable de Patrick et Cédric qui traverse la France.
Patrick qui a pris Ouigo, donc voilà. C'est bien Ouigo. Hein,
Oui, bah oui, j'étais surpris. J'étais surpris. Alors, visiblement, c'est un peu qui tout double, mais en tout cas, chez nous, ça s'est très bien passé. Et si vous voulez partager encore plus d'histoires personnelles incroyables, on pourra se retrouver à l'IRL du samedi 21 octobre à 16h à Paris, puisque oui, messieurs, dames, c'est le grand retour des IRL. Enfin, en tout cas, on verra si on la fera l'année prochaine. Cette année, je reviens en octobre à Paris et on se fait une rencontre. C'est au Corcoran, comme à la grande époque du monde d'avant, le samedi 21 octobre. Réservez vos dates. On a un event sur le Discord si vous voulez vous y inscrire pour qu'on voit un petit peu combien de gens viendront. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Et on se retrouve donc le samedi 21 octobre à Paris. Notez-le.
J'ai le droit de venir.
Mais tu es largement encouragé à venir, évidemment.
En plus, ce sera mon anniversaire, donc vraiment...
Ah oui. Ah mais alors, ça sera la fête d'anniversaire de Cédric au Corcoran du Sacré-Cœur.
Chérie, c'est bon, c'est géré ma fête d'anniversaire.
C'est ça, exactement. Tu viens avec les enfants, tout, il n'y a pas de problème.
Bah, bien sûr.
On fera nos voyages en Ouigo.
Mon Dieu.
Je voudrais remercier les auditeurs qui ont rejoint le Patreon. Manu, le papa malin, Damien, NK4, Mérine Drake et les producteurs Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous. Si on a pu parler de nos voyages en train pendant 5 minutes ou 10 minutes en début d'émission, c'est grâce à vous. Donc, je ne sais pas si vous êtes content de soutenir cet épisode spécifique, mais d'une manière générale, j'espère que vous êtes content d'être patriote de l'émission. Patreon.com/RDVTech pour les rejoindre, évidemment. Et puis, on va se lancer donc dans les news importantes de l'émission. Un mot pour dire qu'il n'y a pas des news qui ont vraiment surnagé. Donc, il y aura peut-être des news importantes après le break. C'est un petit peu l'appel d'air avant les événements d'Apple. Mais il y aura des news hyper intéressantes après le break. Donc, restez. Mais j'ai choisi des news un petit peu différentes. Genre, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de Twitter dans les news de départ. Mais c'est quand même des trucs hyper intéressants et importants aussi. Donc voilà. On va se lancer et on commence donc avec une info intéressante sur les capacités de la Chine à fabriquer des puces modernes et enfin gravées avec une finesse importante, puisque Huawei a annoncé des nouveaux téléphones, spécifiquement le Mate 60 Pro et le Mate X5 pliables, et qu'ils sont équipé d'une puce qui s'appelle la... alors attendez, je regarde mes notes.
Kirin 9000.
C'est la Kirin 9000S qui est gravée en 7 nanomètres. C'est surprenant. Pour ceux qui ne suivent pas bien l'actualité, comme Numérama, qui a fait un très très bel article justement où ils expliquent la nature de cette puce, pourquoi c'est pas si surprenant, mais je le mettrai en lien dans les notes de l'émission. C'est un long article qui détaille tout ça. En gros, on pensait, la plupart des gens, et moi inclus, pensaient que la Chine était limitée à peu près 14 nanomètres. Donc le fait qu'il y ait une puce 7 nanomètres dans cet appareil, malgré les blocages des Américains et des Européens, était un petit peu surprenant. En réalité, c'est pas si surprenant de ça, parce que la société à laquelle fait appel Huawei, qui design ses propres puces, et ils sont très très bons là-dedans, pour le design, mais pour les fonderies, en fait, ils faisaient souvent appel à d'autres sociétés comme TSMC, qui utilisent du matériel qui est aujourd'hui bloqué, notamment du matériel de ASML, vous savez, la gravure de puces en ultra violet profond, je sais plus quelles sont les différentes nomenclatures, mais il y a que ASML, le néerlandais, qui peut fournir des machines pour faire ça. Elles étaient utilisées par TSMC, mais la Chine n'a pas le droit d'en avoir, et donc il se repose plutôt du côté de Huawei sur SMIC, S-M-I-C, qui est entièrement chinois et qui a développé des techniques pour graver effectivement depuis un moment, depuis 2-3 ans, en 7 nanomètres, mais c'est du 7 nanomètres qui est des évolutions de techniques précédentes qui ont un rendement plus faible et donc qui augmente le prix des puces à l'unité, et qui en plus ne pourrait pas a priori être poussé beaucoup plus loin que ça. Donc oui, ils sont capables de faire du 7 nanomètres. Oui, c'est moins surprenant qu'on aurait pu le penser. Et oui, c'est pas forcément un truc qu'ils vont pouvoir pousser beaucoup plus pour accéder aux 5 ou aux 3 nanomètres. Par exemple, on attend les prochaines puces d'Apple gravées par TSMC en 3 nanomètres. Alors, les nomenclatures sont pas tout à fait exactes, c'est pas vraiment du 3 nanomètres, mais c'est plus fin que le chiffre plus élevé. Et donc, ça montre un petit peu aussi que les effets du blocus sont réels, mais poussent aussi... La grande question maintenant, c'est est-ce qu'ils vont réussir à aller plus loin sans les technologies occidentales ? Et ça, personne n'a vraiment la réponse. Mais ils peuvent déjà aller à cette finesse de gravure.
Il serait étonnant qu'ils n'y arrivent pas, en fait.
Tu crois ?
Parce qu'ils ont des capacités d'investissement à la limite de l'infini. Ils ont, enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas comme organiser le blocus de la Corée du Nord. Là, tu as un écosystème, tu vois, tu vas à Shenzhen. Moi, j'ai toujours le souvenir de ce voyage il y a près de 4 ans maintenant, enfin, juste avant le Covid, où j'étais chez Huawei justement. Et alors, ils étaient très fiers, parce qu'il y avait déjà le Mate 50, si mes souvenirs sont bons, qui avait déjà une puce Kirin, etc. Enfin, une puce maison, au design maison. Même si de fait à l'époque c'était TSMC qui les produisait pour eux, mais évidemment en leur coupant en leur coupant l'accès à ce genre de fournisseur qui est crucial. Tu fais pas ce genre de choses d'ordinaire sans TSMC. Comme tu rappelais à ASML, je rappelle le truc, j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Allez lire Cheap War de comment s'appelle-t-il, de Chris ça y est, ça va me revenir. De Chris Miller, voilà, Cheap War, qui vous raconte toute l'histoire de la géopolitique au travers de la production des puces. Ça te renverse la tête. C'est-à-dire que tu croyais que tu savais des trucs, tu savais rien. Et là, tout s'explique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu ça, on a compris. Et je sais pas s'il l'évoque pas, d'ailleurs, le problème du blocus, parce que le blocus est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que,
Au départ, tu les retardes et puis tu les pousses à développer leur propre capacité.
Évidemment. Si tu veux, c'est le même effet dans des domaines très différents que la Corée du Nord et le nucléaire. C'est-à-dire que tant que ou l'Iran est nucléaire, c'est-à-dire que tant que tu dis voilà, bon allez, on va trouver des accords, on vous demande d'arrêter ça, mais en échange, là s'il n'y a plus d'échange, bah il n'y a plus de raison de s'arrêter. Et si tu veux, il n'y a rien qui ne pourrait empêcher la Chine à terme de savoir faire ce que fait un ASML. Et qui, oh, qui je me rappelle, des... produit littéralement les machines les plus complexes au monde.
Ouais. C'est, on en a déjà parlé dans l'émission, hein, mais c'est des machines, au-delà de leur complexité, qui sont tellement de pointe qu'il n'y a que un ou deux. Alors, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, Japan... il y a une société au Japon qui fait des trucs presque équivalents, mais essentiellement, c'est ASML qui a le monopole. Alors, est-ce que c'est un monopole parce que, bah, comme ils les font déjà, on ne va pas redévelopper la même chose, ça coûte très cher et bon, on peut en acheter chez ASML. Mais en même temps, il y a une chaîne de... on se souvient que pendant... Enfin, moi, je m'en souviens, pendant le Covid, ASML avait des problèmes parce qu'ils reposent sur une chaîne de fournisseurs qui est tellement complexe et tellement limitée qu'ils réussissaient plus à produire leur propre...
Il suffit pas grand chose.
Je sais pas si la Chine pourra développer ça quand même, tu vois. Ou alors,
c'est compliqué. C'est vraiment une question de chaîne d'approvisionnement et d'écosystème. Ouais. C'est-à-dire que ces machines-là, dedans, il y a 250 000 pièces qui viennent collectivement de centaines, voire de milliers de fournisseurs. Enfin, c'est pour ça que la complexité, elle est aussi là. C'est pas juste une question de. Alors, c'est pas qu'un assemblage de technologies, mais ça l'est aussi. Donc, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Mais là, les Chinois ont toute motivation à recréer cet écosystème maison, parce que je pense que, mis bout à bout, il n'y a pas un élément de la chaîne qui soit totalement hors de leur portée aujourd'hui, demain ou le jour d'après.
Du coup, bah écoutez, ça c'était l'histoire de la Chine en 7 nanomètres qui était surprenante, et donc, comme je le disais, pas forcément si surprenante que ça. On a une autre info qui est très intéressante, je trouve, pour l'évolution de Uber. Alors, est-ce que tu connais TaskRabbit ? Je te pose la question.
Bien sûr. Ça fonctionne pas chez nous, TaskRabbit.
Alors, j'ai été surpris de voir que le site existe en français.
Ah, ben tu vois.
TaskRabbit, en fait, c'est un service qui est un peu la gig economy pour les petites tâches ménagères, les trucs de réparation, etc. Assemblage de meubles IKEA. Ils disent sur le site, effectivement, ils donnent quelques exemples, aide au déménagement, nettoyage, etc. Et donc, on trouve des gens pour faire ces petites tâches. Enfin, c'est exactement comme n'importe quelle gig economy, c'est comme du Uber, c'est comme du Airbnb, mais pour des tâches menus, ménagères ou de bricolage ou de réparation, ce genre de choses. Et du coup, on a vu dans l'application iOS, les gens qui, vous savez, très intelligemment, explorent le code de ces applications, ils ont trouvé une page Tasks. Qu'est-ce que ça veut dire, Tasks ? Ça veut dire tâche. Et en l'occurrence, c'est une expérimentation de la part d'Uber de faire des chores, des tâches, des corvées, c'est chore le nom de l'option dans l'application, donc venir chasser sur le territoire de TaskRabbit avec la force de frappe qui décortique, merci, on me dit dans la chatroom sur Twitch le terme que je cherchais, merci, qui décortique. Donc Uber pourrait venir chasser sur le terrain de TaskRabbit, et avec la force de frappe, je peux tout à fait imaginer que ce marché se développe de manière exponentielle. Alors TaskRabbit est très présent aux États-Unis, moins dans nos contrées, comme on le disait, on savait même pas s'ils étaient présents en France, ça a l'air d'être le cas, et là je peux tout à fait imaginer que ça va exploser, quoi. Si lance ce truc, je pense qu'immédiatement ça devient une partie importante de leur business, et c'est tout à fait logique pour eux, après le transport et la livraison, de se diriger là-dedans, quoi.
Oui, parce que c'est une extension d'Uber Eats, en fait. Parce que c'est surtout des trucs de petite livraison, va chercher tel truc là, enfin... après, est-ce qu'ils vont se lancer vraiment dans des trucs un peu plus compliqués comme les services à la personne, etc. Bon, pourquoi pas, hein, mais
ça, c'est encore une autre étape. Là, on parle vraiment de montage de meubles, nettoyage, etc., quoi.
Ouais, bah oui, enfin, c'est aussi ça. Mais c'est-à-dire qu'en France, on a, tu vois, le chèque emploi service, etc. Donc, ça rajoute à la fois de la simplification pour ceux qui commandent, mais il y a un peu d'administration différente. Mais non, pourquoi pas, ouais. On a déjà le réflexe. Quand Uber Eats est sorti, on a dit « Ouais, je vois pas trop le rapport, c'est les chauffeurs de voiture qui vont me livrer ma pizza, vous êtes sûr ?» Et puis finalement, on a compris.
Je pense que beaucoup de gens qui se disaient « Ouais, je sais pas, livraison, machin, tu vas le chercher ou t'appelles directement le magasin en question », en fait, J'ai l'impression, de ce que j'en sais quand je viens, beaucoup de gens utilisent Uber Eats ou Deliveroo, mais Uber Eats, ça fait une place énorme, quoi.
Énorme.
Parce que c'est vrai que c'est la facilité d'utilisation. Tu es dans ton app, alors tu as déjà la Uber ou la Uber Eats, mais maintenant, tu es réuni. Et c'est très simple, tu as tous les magasins au même endroit, tu utilises le même système de paiement. Et c'est pour ça que je me dis, appliqué aux petites tâches ménagères, je pense que ça ne peut que fonctionner. C'est un moyen. En plus, tu as une certaine, un vetting, une vérification des personnes avec les systèmes de notation, tout ça. Donc, tu dis, j'ai mon évier, mon robinet qui fuit, je sais pas si la personne va m'arnaquer ou non. Au moins, t'as un système de notation, tu as plus ou moins ce crowdsourcing d'efficacité de la personne, plutôt que d'appeler, les petits trucs qui te mettent dans les boîtes aux lettres. Tu sais jamais qui c'est, tu sais jamais s'ils vont pas t'arnaquer, s'ils vont bien se faire le truc, etc.
Totalement.
Je pense que ça peut marcher. Et pour Uber, c'est complètement logique de se faire un troisième pilier comme ça, quoi.
Ça tient debout.
Une étude de l'INALCO. Oh,
qui est déclaré.
Mais de l'INALCO, tu sais, c'est l'université à laquelle j'ai appris le japonais, l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales.
Orientales.
C'est l'UNESCO.
Langzhou, comme on dit.
Exactement, voilà, Langzo. L'UNESCO a rendu public un rapport sur l'effet de la numérisation de l'éducation pendant et après le Covid. Et ils tirent un petit peu la sonnette d'alarme parce qu'ils disent que ça a développé une inégalité immense, alors à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'ils sont alarmés par les effets dans les populations qui n'ont pas accès aux outils numériques. Et d'une manière générale, on pourrait dire, ah mon Dieu, ça a accru les inégalités en France, aux États-Unis, en Europe. Alors, à vrai dire, peut-être plus aux États-Unis qu'en France. Évidemment que nos pays occidentaux sont touchés, mais essentiellement ce qu'ils disent, c'est que le vrai problème, c'est quand les mesures de confinement ont été implémentés en particulier dans les pays les plus pauvres, ça a eu des effets chez eux, puisqu'il y avait beaucoup plus d'enfants qui n'avaient pas accès à ces outils numériques et qui donc ont eu des retards dans leur éducation, etc. Et donc, les confinements et les fermetures d'écoles ont eu des effets à ce niveau-là également, et donc ils encouragent les enseignants, évidemment, et les gouvernements à considérer les outils numériques comme un outil à utiliser de manière réfléchie plutôt que de se diriger vers une numérisation automatique, on va dire, et généralisée de l'enseignement. Puis il y a plein de raisons, mais pour ces raisons aussi, c'est un rapport très intéressant qui sera aussi dans la newsletter. Donc, comme tout le monde.
Il y a deux choses dans cette numérisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord la numérisation des supports. Moi, j'hallucine. J'ai un fils qui vient de rentrer en sixième et qui m'a montré son sac à dos hier. Ça devait faire 14 kilos. Je lui dis, on est chez les fous, là. Et puis, il y a l'enseignement à distance qu'on a découvert avec le Covid, avec des bonheurs très divers, dirons-nous. Mais c'est vrai que ça pose des questions. J'ai une fille qui est en CM1. Et qui, là, j'ai appris faire partie d'un programme pilote où on va leur remettre une tablette, où il y aura leur support, les bouquins, etc. etc. Alors, j'ai pas encore eu la tablette en main, évidemment, j'attends ça avec impatience. Mais ça pose des questions, parce que qu'est-ce que tu fais avec, à quoi est-ce que tu as réellement accès, comment c'est géré, comment fonctionne le contrôle des contenus, c'est amusant, parce que tout à coup, je me retrouve...
Tu pousses un peu trop dans le français, là, parce que dans la phrase d'avant, tu te plains que les cartables sont trop lourds. Dans la phrase d'après, on dit, on va tester les tablettes, on va voir comment ça marche et ajuster.
Absolument.
Mais attendez, monsieur, de quoi parlez-vous? Ne sommes-nous pas
Je suis d'accord que c'est compliqué, parce qu'à la fois, j'ai, tu vois, des espèces de réflexes d'early adopter, genre, ah ouais, cool, ouais. Super, hein. Et pourtant, je me pose quand même la question de l'usage des contenus, de tout ça, surtout que ma fille en question, tu veux, quand elle avait, je sais pas, 5 ans, elle me chopait des iPads, pendant le confinement d'ailleurs. À chaque fois, c'est genre, il est où l'iPad? Ah ben, je sais pas. Et là, d'un coup, je retrouvais Daphné, c'est son nom, tu vois, dans une pièce de la maison où elle avait démarré la caméra, lancé vidéo, record, et je la voyais qui faisait « Welcome to my channel ».
Sérieux?
Et elle faisait visiter sa chambre. Et ouais, c'est, tu vois, donc...
Ah ouais.
Ah non, non, mais c'est terrifiant. C'est,
mais genre, elle s'était faite une chaîne YouTube ou...
Rien du tout, il n'y avait pas de compte, il n'y avait rien. C'était,
ah oui, d'accord, c'était juste
les vidéos de...
À... Ah ok, d'accord.
Voilà, qui jouait à Mrs Beast, quoi, tu vois, et... Et c'est terrifiant. C'est, on a une discussion de un ou deux ans plus tard où je lui dis, tu fais quoi pour ton anniversaire? TikTok. Non, c'est non. Non, c'est nine. 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 Jamais. Plutôt crever jusqu'au dernier. T'auras TikTok quand tu partiras de la maison à 30 ans. Voilà.
Bon, faut avouer que 7 ans, c'est un peu tôt peut-être pour TikTok quand même.
Ah, mais non, mais surtout, c'est sans fin. C'est-à-dire que quand t'as pas le, tu vois, quand t'as pas encore le cortex préfrontal totalement mature et que tu sais pas contrôler tes pulsions, ton temps et tout ça, enfin, c'est terrifiant. Non, c'est pas possible.
On est d'accord. Bon, en tout cas, ce rapport de l'UNESCO est hyper intéressant et il a des conclusions à retenir pour ce qui est de la numérisation de l'enseignement, et comme je le disais, surtout quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est moins le cas dans nos sociétés à nous. Mais... Donc voilà pour les trois premiers sujets. Vous avez vu, on fait relativement rapide, parce qu'on en a plein qui vont suivre dans la deuxième partie. Mais en attendant la deuxième partie, je voudrais vous parler du sponsor de cet épisode, qui est un sponsor qui a déjà sponsorisé un épisode spécial il y a combien de temps ? C'était il y a un an peut-être ? Un épisode spécial que je vous recommande très chaleureusement, que vous appréciez le sponsor ou pas, c'est l'épisode numéro 434 qu'on avait fait avec Stéphane Le Boisselier sur le métier de pentester. Pentester, c'est testeur de hackabilité des sociétés. Stéphane nous avait raconté son métier, la manière dont il va dans des sociétés pour tester de quelle manière on peut pénétrer dans les systèmes. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des moyens techniques, mais il y a au moins aussi des moyens de social engineering, etc. Et c'était passionnant. C'était l'épisode donc 434, sponsorisé par le sponsor de cet épisode, NordVPN. Donc vous voyez, sécurité informatique, métier de pentester, c'était super logique. Et donc, ils reviennent, nos amis de NordVPN, pour sponsoriser cet épisode et pour que je vous parle de leur produit, qui est évidemment hyper intéressant. Alors, il y a deux parties au produit. Il y a le VPN d'une part et NordPass, le gestionnaire de mots de passe, d'autre part. Et je voudrais vous parler des deux très rapidement. D'abord, le VPN. Alors, évidemment, NordVPN, ils n'ont pas d'archivage de données, ils ne gardent pas vos logs, etc. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi des fonctionnalités un peu moins connues que j'adore, comme le split tunneling. Est-ce que vous savez ce que c'est que le split tunneling ? En fait, c'est la possibilité de partager la connexion entre une partie avec VPN et une partie sans VPN. C'est-à-dire que vous pouvez lancer le VPN sur votre ordinateur ou sur votre Mac ou votre PC. Et il est bien sûr disponible sur portable aussi, hein, iOS, Android, etc. Mais vous pouvez donc lancer sur votre Mac ou votre PC le VPN en disant « Le VPN ne s'applique qu'à telle et telle application ». Donc vous pouvez l'avoir qui tourne tout le temps. Sur un navigateur, bah vous naviguez normalement. Sur un autre navigateur, quand vous le lancez, vous passez par le VPN. Je trouve ça hyper pratique de pouvoir choisir les applications qui sont dans le VPN ou pas. Il y a une autre fonctionnalité que je crois que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est le Mesh Networking. C'est vraiment étonnant. Le Mesh Networking, c'est la possibilité de créer un réseau local, mais pas local. C'est vraiment étonnant. Franchement,
quoi ça ?
C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que ça te crée un VPN, c'est Virtual Private Network, privé, donc un VPN privé entre tous tes appareils qui se voient comme s'ils étaient sur un réseau local. C'est hyper malin. Et ça permet notamment, franchement, je n'ai jamais partagé un fichier plus facilement de ma vie entre mon téléphone et mon ordinateur. C'est toujours une galère, on passe par un partageur de fichiers, par un machin. Là, tu actives le mesh networking sur tes deux appareils et tu glisses, tu choisis un fichier sur ton téléphone, pip, il apparaît sur ton ordinateur. C'est hyper pratique et ça permet de faire énormément d'autres choses. Hein. Mais rien que pour le partage de fichiers, c'est vraiment super cool. Et c'est la manière dont NordVPN, je pense que ils ont compris que juste être un VPN, c'était pas suffisant, et ils continuent à innover, à essayer d'ajouter des fonctions pour être le VPN que les gens vont choisir. Et celle-là, franchement, je l'ai trouvée hyper intéressante et hyper intelligente. Mais il y a d'autres trucs intéressants chez NordVPN. C'est, en dehors du VPN, il y a aussi NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe. Et j'imagine que vous connaissez les gestionnaires de mots de passe. Eh bien, vous savez qu'on a tous besoin d'un gestionnaire de mots de passe. Franchement, aujourd'hui, utiliser Internet sans gestionnaire de mots de passe, c'est un peu suicidaire. Et c'est honnêtement le truc que je ne recommande à absolument personne. Gestionnaire de mots de passe, c'est indispensable pour naviguer sur Internet. Sinon, on se retrouve avec des trucs où on utilise le même mot de passe partout. On est systématiquement en train de faire des mots de passe de mauvaise qualité, etc., etc. Donc, ils ont une offre pour le gestionnaire de mots de passe également. Et vous pouvez prendre l'offre avec VPN et gestionnaire de mots de passe. Et comme on a, enfin, le VPN, c'est comme une assurance, quoi. Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, on n'en a pas besoin souvent, machin. C'est pas faux.
Mais c'est pas vrai non plus.
C'est pas vrai non plus, parce que quand tu es, alors, en fonction de là où tu es, les Wi-Fi ouverts d'hôtel, d'aéroport, de machin, quand t'en as besoin, t'es bien content de l'avoir eu, parce que c'est comme l'assurance. Le jour où t'en as besoin, si t'en as pas une, bah, t'es bien dans la merde. Là, moi, j'ai toujours un VPN dans ma poche, pour le cas où j'en ai besoin, et comme j'ai le VPN et que j'ai besoin aussi du gestionnaire de mots de passe, bah, je me dis autant faire les deux. Et en plus, là vous me voyez venir avec mon offre promo, il y a, si vous allez sur nordvpn.com/rdvtech, nordvpn.com/rdvtech, bah, il y a une offre spéciale, enfin une offre promo incroyable. Alors, je crois que vous pourriez la trouver ailleurs aussi, mais je ne suis même pas sûr, remarquez. En fait, c'est si vous prenez 2 ans, vous avez 68% de réduction.
Quoi ?
Alors, 68, incroyable !
68% de réduction.
68% plus, monsieur Ingrand, ce n'est pas fini, 3 mois gratuits. Bon, tout ça pour dire qu'au final, ça vous coûte 3,99€ par mois pour le VPN et NordPass ensemble. Ça, c'est si vous prenez les deux. Et en plus, vous êtes remboursé satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, il n'y a aucun risque à prendre l'abonnement. Si vous n'aimez pas, bah, au 30 jours, vous êtes remboursé. Donc,
si vous commandez maintenant ce service magnifique de couvert en inox...
C'est ça.
Pardon.
Bon, plus sérieusement, les deux choses que je veux que vous reteniez, c'est si vous voulez un VPN avec un gestionnaire de mots de passe, c'est franchement un truc à faire, comme on a besoin des deux. Donc, nordvpn.com/rdvtech et allez écouter le rendez-vous tech 434 sur le métier de pentester, qui était aussi sponsorisé par eux. Donc, c'est un épisode intéressant à écouter. Et donc, merci, un grand merci à NordVPN de sponsoriser l'épisode. On me dit dans la chatroom, mention collaboration commerciale. Ah bah oui, carrément, c'est exactement ça.
Ah bah.
Mais je pense que tu dis l'épisode est sponsorisé, c'est clair. Hein, je pense pas qu'on...
oui, je voulais juste vous parler d'un truc que j'ai découvert.
C'est ça.
Incidemment.
Donc voilà, merci à NordVPN, nordvpn.com/rdvtech. Et vraiment, ces petites fonctionnalités, je pense qu'elles vous plairont.
On se demande où on serait YouTube et les podcasts sans NordVPN quand même dans l'ensemble.
Si tu veux.
Tu veux, quand on parle du marché, enfin je veux dire du côté business de tout ça,
qui sont habitués des podcasts, on est d'accord. Mais même sur YouTube, ils sont partout. Hein. Parce que c'est un marché qui est compétitif et donc ils ont besoin de se faire connaître. Et bah,
absolument.
Faire connaître le public du rendez-vous tech, c'est quand même
formidable. Enfin ça, là on va pas en mettre des couches, mais mieux, c'est au-dessus, il y a plus que le soleil, hein. C'est pas c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est intéressant parce qu'en plus c'est un produit qui marche bien avec ce type de marketing, tu vois ce que je veux dire. D'abord parce que tu recommandes un produit, et puis parce que celui qui écoute là, qui a pas de VPN, qui se dit c'est vrai, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je me pose la question de savoir, ah, il y a une gestion d'un mode. Ah, et là, c'est du direct action, comme on dit en marketing. C'est tout à coup, tu cliques, tu machins, il y a une réduction, voilà. Et c'est aussi pour ça que NordVPN est très présent, mais c'est vrai que moi, je serais curieux de voir leurs chiffres, en termes de nombre de clients, et puis de ce qu'ils investissent en pub, en marketing. Ah bah, mais ils les investissent sur les meilleurs supports, donc on peut pas leur en vouloir.
Et puis, je pense que pour ce genre, bon là, on a un petit peu quitté la partie sponsor, mais en même temps, on y est encore. Pour quelqu'un qui cherche un VPN et qui connaît pas le marché, tu vas te dire lequel je vais choisir. Donc, tu entends Patrick Béja qui dit, bah, celui-là, je lui fais confiance, parce qu'il y a quand même de ça aussi, quoi. Je suis allé regarder comment il fonctionne, comment leur politique de données, etc. Donc, si je vous le recommande, évidemment que c'est un sponsor, mais je suis aussi allé regarder derrière. Et donc, je pense que les gens qui vont aller chercher un VPN, ils savent pas lequel choisir, ils ont pas envie de s'emmerder à faire les recherches. Ils disent, bon, bah, Patrick a dit que c'était bon, allez, je vais faire celui-là. Et c'est pour ça qu'il me paye pour vous en parler. C'est la prescription qui est comme beaucoup de... beaucoup de sponsors de podcasts, ça marche sur la prescription, mais encore plus ce genre de produit, je crois. Parce que on pourrait parler du business des VPN, mais j'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur la marge et les réductions qu'ils offrent et la manière dont ils font fonctionner les services, les gens qui les prennent par sécurité, qu'ils étudient. Il y a plein de choses super intéressantes à dire. Mais du coup, cette partie, c'est clair qu'ils comptent sur la personnalité et la relation qu'on a avec notre audience,
bien sûr,
pour que ça fasse prescription, quoi. C'est évident.
Mais évidemment.
Donc voilà. Bon, bah maintenant, on referme la partie discussion sur le business des podcasts et des VPN et sur le sponsor. Donc, j'en remets une petite couche, nordvpn.com/rdvtech. Et franchement, ils en ont pour leur fric, hein, parce que c'est la plus longue promo que
j'ai
faite.
Oui, je pense que...
Mais c'était
voilà.
Intéressant, j'espère.
Je vous donnerai mon IBAN à moi, hein, parce que... Pardon.
Ça marche.
Alors, c'est une incise, mais ça permet de changer de sujet. Si le business des podcasts vous intéresse, je vous recommande un épisode de cette semaine du podcast quotidien du Wall Street Journal qui revient sur Spotify, qui a investi $1 milliard dans les podcasts, racheté Joe Rogan, racheté machin, et qui là maintenant est en train de rationaliser un peu tout ça, parce qu'il n'y a pas derrière le business qu'ils attendaient. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas réussi à trouver encore la martingale. Mais j'ai appris un truc qui, moi, m'a fait tomber de ma chaise, qui est une image parce que je l'ai écouté en voiture, c'est qu'ils ont racheté une boîte de podcast bien connue qui s'appelle Gimlet.
Gimlet, ouais.
Qu'ils ont racheté, je crois, 280 millions, enfin tu vois, pour un éditeur de podcast qui avait 3 ans, 4 ans. Et dedans, il y avait des témoignages de gens chez Gimlet qui disaient, bah ouais, au début, on nous a dit, non, en fait, allez-y, c'est bon, en fait, les meilleurs contenus, money is no object, tu vois ce que je veux dire, allez-y, c'est bon. Et ils ont fait des podcasts, j'aimerais bien savoir de quel podcast il s'agit, dont certains épisodes, podcast audio, hein, certains épisodes coûtaient $250 000 à produire.
Incroyable.
$250 000. T'imagines, toi, tu fais 3 saisons du rendez-vous tech ou de 4. Enfin,
avec 250 000 Ah oui, ça paye
facile.
Une certaine... Oui, ça
non,
paye
mais même,
quelques...
Même avec les charges, hein, je veux dire, voilà. Oui. C'est, voilà, 250 000.
C'est marrant parce que, alors, d'une part, j'avais à la fin de l'émission une partie sur les podcasts et sur Spotify spécifiquement, parce que c'est intéressant, ils sont en train d'expérimenter avec des trucs d'audiobook, des fonctionnalités premium, etc. Mais oui, on est en train d'arriver à un moment où Spotify... Bah, je mettrai du coup dans la newsletter cet article du Wall Street Journal dont est sans doute tiré le podcast.
Fort probablement.
Ils font un petit peu le bilan. Et c'est hyper intéressant. Et il y a clairement un truc sur lequel ils ont fait un pari, qui était un pari intéressant, hein, de Spotify, qui était, on n'a pas le contrôle sur le contenu, sur la musique, et il faut qu'on ait des revenus additionnels. Le podcast, c'est complètement en phase avec notre métier, notre cœur de métier, qui est l'audio. Donc, on va y aller à fond et on va essayer de devenir le YouTube, la seule destination du podcast. Clairement, ça n'a pas marché. Et là, on arrive donc à ce bilan où on voit combien ils ont dépensé et qu'en fait, ils n'ont pas réussi à s'approprier le marché du podcast. Ce qui est, bon, moi, je ne pense pas que ça soit une si mauvaise chose, évidemment. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas du tout réussi dans le podcast. Il y a une progression qui est constante. Ils ont une part de marché importante et ils continuent dans le podcast. Ce n'est pas qu'ils abandonnent.
Non, clairement. Bien sûr, ils sont devenus une destination... Moi, il m'arrive couramment d'écouter des podcasts sur Spotify. Enfin, c'est pas... Non, c'est intelligent de leur part.
Mais un truc qui était intéressant à noter, c'est que beaucoup de gens se sont plaints. En fait, l'un des trucs dont ils sont plaints, c'est que leur podcast avait énormément perdu d'audience en passant en exclusivité, évidemment, sur Spotify.
Ah oui.
Et ça, c'est un truc qui est très spécifique à l'industrie du podcast. C'est que le podcast, c'est comme le mail, c'est pas un truc qui est captif, c'est pas un truc qui est centralisé, et tu ne peux plus aujourd'hui, vu la manière, enfin a priori, hein, vu la manière dont s'est construit le podcast, tu peux plus devenir le YouTube du podcast et être la destination centralisée du podcast, c'est pas possible. Il y a eu tellement d'apps qui se sont développées, de gens qui écoutent dans des apps différentes, etc. Ou alors ça va prendre 15-20 ans, quoi.
Non, mais ça dépend, c'est-à-dire que si t'es Joe Rogan et qu'ils t'ont racheté et donc acheté de l'exclusivité, tu peux pleurer en disant « Ouais, c'est vrai, j'ai moins d'auditeurs qu'avant. Ah, attends, non, c'est bon, j'ai pris 200 millions. » Ouais, finalement, ça va.
Bien sûr, mais tout le monde n'est pas Joe Rogan, tu vois, les podcasts. Ce que je veux dire, c'est que la plateforme en elle-même, je pense pas qu'elle puisse devenir une plateforme de destination exclusive de podcast pour des gens qui n'ont pas été 200 millions. Je veux dire, on te dit, toi, tu crées ton podcast, est-ce que tu veux être juste sur Spotify comme tu es juste sur YouTube ? Bah non, c'est pas possible. Difficile. Ça fonctionne pas, quoi. Non. Ceux qui auraient potentiellement une chance pour ça, ça serait Apple, mais ils s'en foutent. Le business du podcast, c'est trop petit, et puis ça serait mal vu, ça vaut pas la peine, quoi.
Ouais.
Donc le podcast restera libre. Je sais pas si... Ça a des désavantages quand même, ce type de développement. Il n'y a pas d'évolution dans le format. Enfin, s'il y en a, mais c'est très long, c'est difficile à être adopté, à faire adopter par tout le monde. Ah oui. Il y a des manières dont le podcast pourrait évoluer, des choses que fait Spotify justement. Enfin, dans un podcast, par exemple, tu vas dans les notes, c'est très limité. Tu ne peux pas faire, je sais pas moi, de sondages, de commentaires. De... C'est très disparate.
L'interaction est assez limitée, oui.
Ah ouais. Et donc, on et est obligé d'aller interagir sur Twitter, sur Discord, etc. Donc, peut-être que ça serait intéressant de faire une émission
du podcast. C'est aussi ça leur axe maintenant, c'est de dire on va devenir non seulement une destination, mais on va donner aux créateurs de podcasts plein d'outils. Alors d'abord j'imagine une régie publicitaire, c'est pas con parce qu'il y a au moins voilà. Ouais. Et puis des outils de création, justement des outils d'interaction, voire même des trucs pour t'aider dans la production de ton podcast. Enfin tu vois, c'est voilà. Ça je trouve ça intelligent. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas fait dès le début.
Ouais. Mais il y a plein de sociétés qui font ça et qui pourraient, par contre, se faire bouffer par un gros acteur comme ça. Mais...
Exactement.
Donc, continuons avec d'autres sujets que je voulais couvrir et qui seront dans la newsletter également, enfin certains d'entre eux. Il y a un article super intéressant de CNBC sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine médical. Et il donne plusieurs exemples. Alors, on ne va pas passer 4 heures dessus, hein, ça sera dans la newsletter, mais il y a plusieurs exemples sur l'entraînement de chirurgiens qui vont faire des opérations en virtuel, dans un environnement virtuel pour se préparer à des opérations réelles, à l'école ou même pour updater leurs connaissances, etc. Et l'utilisation pour des personnes, par exemple, handicapées, qui leur donne la possibilité de bouger, d'évoluer dans des environnements auxquels ils n'ont plus accès ou ce genre de choses et qui peut influencer leur santé mentale. C'est hyper intéressant et c'est... Alors, j'ai vu, c'était marrant, c'est peut-être un push marketing de Meta, parce que j'ai vu des pubs dans les métros parisiens sur les médecins qui utilisent la réalité virtuelle avec des appareils Meta, comme c'est le cas dans cet article, c'est des MetaQuest. Et ils en font de la pub dans les métros, donc c'est rigolo. Mais c'est hyper, c'est des trucs dont j'avais déjà entendu parler par ailleurs, dans les deux domaines, l'entraînement et la thérapie psychologique presque. Et c'est hyper intéressant. Et c'est pas un truc que je voyais se développer vraiment, enfin que j'ai vu se développer. Et là, visiblement, c'est un truc que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui.
Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup, pas mal de boîtes françaises d'ailleurs sur ce marché-là. C'est un truc très B2B. Hein. C'est vraiment, ça s'adresse aux facs de médecine, aux services de chirurgie, etc., pour arriver à simuler des opérations en amont, à s'entraîner à des gestes, etc. Mais c'est intéressant parce que ces campagnes de pub Facebook, elles sont... je suis désolé, ça fait un peu pitié parce que ils essaient de te montrer le futur, mais en fait, c'est un truc qui existe déjà. Et tu dis, mais donc, c'est pas ça le métaverse non plus. Je voyais sur Twitter un garçon coutumier du genre qui disait, non, mais attendez, le métaverse 2.0 est en train de se dessiner. Oui, alors écoute, écoute chérie, on se rappelle.
C'est pas mal. Mais c'est hyper intéressant, effectivement, parce que pour des trucs comme des opérations chirurgicales, tu peux t'entraîner sur un animal ou sur j'en sais rien, tu vois, mais vraiment pour te familiariser avec les procédures, et évidemment que c'est pas la même chose, mais pour commencer à te familiariser avec le truc et avoir moins de surprises et de chocs et justement de manque de familiarité quand tu y es pour de vrai, bah c'est formidable. Donc c'est sur la thérapie pour des personnes handicapées est hyper intéressante aussi. Mais comme tu le disais, comme on le dit dans la chatroom, c'est des trucs qui existaient depuis longtemps, quoi. C'est pas, enfin, qui commençait à être développé il y a longtemps. C'est pas Meta qui l'a amené. Mais
non.
D'un autre côté, Oculus, bah, c'est les leaders dans le domaine. Ils sont un petit peu, ils sont pas les seuls, mais pas loin. Et c'est eux qui continuent à pousser ça. Alors c'est peut-être pas le métavers, mais c'est des utilisations. On sent que les utilisations sont en train de se raffiner, quoi. On voit à quoi ça sert vraiment aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, oui. Mais ça reste un truc pour l'instant très B2B.
Oui, bien sûr. Ah bah complètement.
Voilà. Ah, complètement.
Il y a un article hyper intéressant sur Numérama sur le WorldCoin. Le WorldCoin, c'est un projet crypto web 3.0 qu'on voit passer régulièrement, sans doute en grande partie parce qu'il est poussé par Sam Altman, qui est le fondateur et le type qui est derrière OpenAI aujourd'hui, donc ChatGPT, etc. Et je trouve jamais d'endroit pour en parler. Donc là, je vais en parler deux secondes, mais encore une fois, allez lire le long article d'Orgate que je mettrai en lien dans la newsletter. C'est hyper intéressant, un petit peu inquiétant. C'est un projet de différents facette crypto, mais dont l'une des facettes est l'idée de prouver le fait qu'on est une personne, une preuve d'humanité. Et comment ça fonctionne ? Bah, y a une sorte d'orbe, de machine, sur laquelle, à laquelle on va présenter notre iris, qui va prouver, enfin, qui va voir que c'est bien une vraie iris, par une machinerie compliquée, et qui va vérifier que notre iris n'a pas déjà été enregistrée dans la base de données et qu'une fois qu'elle est enregistrée, elle va attribuer à notre portefeuille crypto, enfin à notre identité crypto, une preuve d'identité humaine. Alors, les données sont effacées, on n'a plus que la preuve elle-même qui reste et pas les données d'iris, en tout cas c'est ce qu'ils disent, pas les données d'iris, etc. Donc on n'a pas de données biométriques qui sont conservées, on a juste l'association à la preuve d'humanité de notre identité crypto, qui est a priori, techniquement, je ne vais pas discuter de la pertinence du truc, mais là où c'est hyper intéressant, c'est que quand on commence à voir l'émergence de l'IA, et on va en parler dans un moment, et ben la preuve d'humanité est un outil qui risque d'être hyper utile. Et donc, ce moyen de le faire, je ne sais pas si c'est le bon, mais je pense que ça ne serait pas trop mal d'avoir une preuve d'humanité quelque part, je ne sais pas comment, mais une preuve d'humanité quelque part pour les interactions sur le net, évidemment, à terme. Et c'est un outil qui est très intéressant pour ça.
Ouais, c'est je sais pas, j'ai vu arriver ça il y a presque 2 mois maintenant, c'est ça, ils ont mis des orbes dans certaines grandes villes, les gens faisaient la queue pour eux, c'était un peu, mais pourquoi exactement, enfin oui, pour avoir une preuve d'humanité derrière une signature cryptographique, pourquoi pas.
Pour être sûr que tu es une personne, quoi.
Il n'y aurait pas Sam Altman, on se moquerait vraiment très ouvertement. Hein. On dirait, non, les mecs, vous avez fumé. Ouais. Voilà. Mais il y a Sam Altman, donc.
Depuis un an et l'émergence des IA génératives à public facing generative AI, on se pose la question de qu'est-ce qui est une IA, qu'est-ce qui est une personne. Le fait d'avoir une preuve cryptographique que tu es une personne, ça a mis l'application. Je pense que vraiment, c'est un truc qui peut être utile, quoi. Bon, écoutez, allez voir l'article, c'est hyper intéressant de voir non seulement la manière dont ça fonctionne, mais également la relation qu'ont les personnes qui vont se faire scanner l'iris au projet, etc. Et elle en parle très bien, Aurore, dans l'article, donc allez le lire. Et bah, puisqu'on est dans le groupe humanoïde, c'est un peu mes fournisseurs de news tech et d'articles tech intéressants, je mentionne une vidéo de l'ami Kassim Ketfi, qui a fait une vidéo sur l'USB-C, parce que l'USB-C c'est compliqué. Et Kassim a fait une vidéo pour expliquer tout ça. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que l'USB-C, en fait, ce n'est pas un format logiciel, c'est juste un format physique. Et derrière ce format physique, donc le type de port, la forme du port, eh ben, y a plein de formats différents pour le chargement, pour l'échange de données, etc. Et bon, je vais peut-être vous spoiler un petit peu la fin. En gros, c'est l'USB 4. Vous voyez qu'il y a des chiffres, hein, USB 1, USB 2, USB 3, qui sont les protocoles. et il y a des lettres qui sont les formats physiques USB-A, USB-B, etc. Eh bien, l'USB 4 va unifier tout ça. Donc, pour être tranquille, il faudra avoir des câbles USB 4. USB-C, ça veut... Alors, c'est pas que ça veut rien dire, mais ça veut pas dire grand-chose. Et tous les détails sont dans la vidéo de Cassim, qui sera dans la newsletter. Je parle tout le temps de la newsletter, mais en fait, c'est là que je mets les notes intéressantes que vous pouvez,
ben oui,
que vous pouvez récupérer. Faut que j'oublie pas de mettre celle de l'article sur Spotify aussi. Parlons un petit peu d'IA. Est-ce que tu as vu ces dernières implémentations? Est-ce que tu entends la pluie là? Parce qu'il pleut beaucoup. Faut peut-être que je ferme le...
Bah, je l'entends de mon côté aussi. Hein, donc si
ah,
tu
de
veux.
Ton côté. Bon. Si vous avez la pluie en décor, je vais aller fermer la fenêtre. C'est un petit peu artisanal hein, quand je suis à Paris, la production du podcast. Et c'est pour ça que vous voyez... Ouais,
si.
Que c'est
si
pas...
seulement tu connaissais des professionnels de la profession qui puissent te donner un cadre professionnel. Bon, moi, je dis ça, je dis rien.
Mais hey, c'est ça le charme du podcast aussi. Tu vois, si
ça, c'est vrai.
Produire oui, oui. comme Spotify, il y a des gens qui me disent parfois, et c'est beaucoup d'actualité pour cet épisode spécifiquement, des gens qui me disent « Ah, oh, tu parles de ta vie, tu parles de tes enfants, machin. » Je pourrais faire un podcast... Très rigoureux. On est rigoureux, évidemment. C'est ça
non,
qui fait le charme de l'émission.
Parfaite rigueur.
Un podcast à la radio. Ça serait une sorte de replay radio où on parle de tech et c'est.
Ouais.
Alors, Cédric Ingrand, comme on disait tout à l'heure, les gens qui sortent de
Sciences Po. Avec des
alors,
sujets sérieux, mais où on se prendrait au sérieux, c'est ça. Ouais.
Voilà, c'est ça. Là, on parle de ouais. sujets sérieux, non. mais l'idée du podcast et la richesse du podcast, c'est justement qu'on a la liberté de le faire comme on veut. Et moi, ma ligne éditoriale pour les podcasts, c'est. On est des amis qui se retrouvent à une table, à un café. Mmh. On est en train de boire un café et discuter de ces sujets. Alors, c'est devenu un peu plus sérieux avec les années, mais c'est ça l'idée. Mmh. Je pourrais faire un truc hyper sérieux, mais c'est pas ce ouais. que je veux faire.
En même temps, donc, personne ne t'a jamais reproché, personne ne t'a jamais dit « Patrick, je trouve que vraiment le son est trop bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de parasites et de bruit d'ambiance. Ouais, » tu vois, personne ne te fait ce genre de reproche. Hein, c'est pas...
Non, mais il y a des gens qui me disent « Mais Patrick, tu parles trop de tes enfants, on en a marre, machin. » Oui, mais...
Ouais, enfin, à ceux-là, il faut rappeler que ce podcast est gratuit et qu'ils en auront donc
bah, toujours, non, mais toujours pour leur argent, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin. C'est l'intention éditoriale de mon émission de vous faire rentrer un petit peu dans ma vie aussi. Un petit peu, hein, pas exagéré, mais un petit peu dans ma vie, qu'on soit amis, quoi. C'est moi, je parle à mes auditeurs comme je parle à mes potes. Et donc, enfin bref, c'est, une, ah, c'est oui, vraiment parfait. Une intention. Et donc... On est à Paris, je me lève en plein milieu de l'émission pour fermer la fenêtre. C'est marrant, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. C'est comme ça que j'aime écouter les podcasts et c'est pour ça que je les fais comme ça. Bon, as-tu vu ces vidéos?
Et donc sur l'IA, oui, oui, oui. Ah,
sur
oui,
l'IA.
Ah.
Alors, on en voit plein ces derniers temps. Je vais voir si je peux la faire passer hop, sur, tac, sur l'enregistrement et sur...
Translator, that's drag and drop, so
c'est des vidéos
drop this in and...
qui font... alors, ce n'est pas du temps réel tout à fait, mais on lui donne une vidéo où on dit quelque chose dans une certaine langue et il va le traduire en n'importe quelle langue, enfin, en différentes langues, directement avec la voix de la personne qui parle et surtout avec le mouvement labial. Donc, les lèvres bougent en suivant les paroles dans l'autre langue.
Ouais, c'est dingue.
Et c'est assez dingue. Alors, ce n'est pas surprenant parce qu'on dit depuis des mois et des années qu'on va y arriver. Mais ce qui est étonnant et ce qui est notable, c'est que c'est maintenant déjà, c'est plus qu'on va y arriver, c'est qu'on y est et on
c'est
y est
ça marche.
Super bien. Et on a vu plein de vidéos sur ce thème. Je dirais, ça fait une semaine, 10 jours qu'on en voit partout. Mmh. Notamment parce que des outils comme HeyGen, qui est un des trucs qui fait de la vidéo en IA, l'a rendu disponible. Mais, et donc, c'est disponible pour le grand public. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous fais... Vous entendrez dans le podcast la voix. Imaginez que les lèvres bougent exactement avec le même le bon mouvement, quoi. Voilà
also,
ce que ça donne. L'original en anglais.
My lip
alors,
so that it matches
je sais
that
pas si ça passe.
So we'll see how it works.
Pour alors ça passe pour le podcast. Donc là c'est l'anglais.
De lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle.
Ça
langue.
C'est le français.
Donc on verra comment ça marche. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour
on
utiliser ça.
On a un très léger accent québécois, très très
donc,
léger.
Rien
et là, on a de
l'allemand. Übersetzen, damit sie zu dieser neuen Sprache passt. Also werden
et
wir sehen, wie es funktioniert.
Alors, il y a des défauts de traduction, évidemment, hein, mais c'est traduit à la volée par une sorte de Google Translate local, parler dans la langue traduite. Et oui, je sais que vous n'entendez pas dans le Twitch, désolé, j'ai pas bien fait les réglages, mais on entend normalement dans le podcast. Et c'est traduit donc à la volée, et la bouche reproduit les mêmes paroles. C'est vraiment... Moi, je pense tout de suite à des applications. Enfin, tous les YouTubers du monde vont pouvoir faire toutes leurs vidéos dans toutes les langues, tu vois. Alors, il y aura des couacs de temps en temps, des traductions ridicules ou mal faites. Mais surtout, c'est marrant, HeyGen, ils vendent beaucoup pour des vidéos de support technique, de ce genre de choses. Enfin, c'est ce qu'ils mettent.
De formation, ouais, bien sûr.
Voilà. Ouais. Non, c'est impressionnant, on est d'accord. Même si on savait que ça allait arriver.
Ah oui, non, c'est le son suffit pas. Il faut voir l'image, c'est-à-dire que tout à coup les labiales correspondent et tout. C'est enfin c'est surtout la simplicité du truc, c'est-à-dire que là c'est pas tu vois c'est pas donne-moi
trois graphistes sous Linux.
Trois graphistes pendant 10 jours, tout ça. Non, là c'est plug and play quoi.
Ouais, très impressionnant. Et je mettrai donc cet exemple dans la newsletter encore elle. Hein.
Décidément.
ChatGPT, d'après un papier de recherche, ChatGPT est équivalent, consomme environ 500 millilitres d'eau pour entre 5 et 50 requêtes. Mais 500 millilitres d'eau pour entre 5 et 50 requêtes. Pour Microsoft, la consommation d'eau a monté de 34% et 20% pour Google. Alors évidemment, quand on a ces serveurs dans un endroit qui est, où l'eau n'est pas un problème, ce n'est pas un problème, mais il y en a beaucoup qui ont des serveurs dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, et évidemment, ça pose des problèmes. Alors ils y travaillent. Je crois que c'est pas... Il ne faut pas prendre le truc comme un truc alarmiste énorme, mais il faut le noter quand même. Enfin, 34% de consommation d'eau en plus, c'est énorme, quoi. Énorme.
C'est plus d'installations. Hein. Ce n'est pas les mêmes installations qui se sont mises à consommer beaucoup plus. C'est aussi parce qu'ils ont ouvert des data centers. Et parce que, mais je suis un peu gêné par l'espèce de règle de 3, parce qu'en fait, c'est l'énergie, on va dire, c'est l'empreinte énergétique et en ressources utilisées pour entraîner le moteur. C'est pas un truc mécanique où ça utilise un demi-litre d'eau à chaque fois que tu fais des requêtes. Non, on a divisé ce qu'il a fallu par le nombre de requêtes pour. Mais c'est comme ça qu'on arrive. Souviens-toi, les fameux trucs où on dit voilà, où on donne l'empreinte carbone d'un gigaoctet de données. Mais c'est le truc qui est absolument impossible à mesurer. Et que c'est une question de contexte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de là où ça a été fait. Et là, il parle de l'Iowa. Bon, très bien. Ton empreinte, elle dépend pour l'essentiel, parce que c'est ça, c'est surtout ça, de là et comment ton énergie est générée. Donc, ils ont c'est très simple, hein, allez mettre tous vos data centres au Québec. Ils seront alimentés à 96% par de l'hydro. Par des barrages, enfin voilà. Donc c'est, je suis gêné par la
l'adaptation à faire, quoi. Ouais, je suis d'accord.
C'est ça. On aurait plus vite fait de dire que Microsoft a déployé 34% de plus de puissance de calcul dans ses data centres sur l'année écoulée. Ok, voilà, ça me va. Et puis après, on peut se parler de l'empreinte et de l'opportunité de s'installer à un endroit A plutôt qu'à un endroit B. Mais te dire 50 requêtes ou plutôt 5, enfin, ça c'est quand même
l'amplitude est quand même de 5 à 10, de 5 à 50.
C'est ça. Voilà, c'est de l'arithmétique amusante, quoi.
Il faut pas non plus penser que les modèles, ça y est, ils sont entraînés et c'est terminé, on va plus avoir besoin de les entraîner. Tu vois, l'entraînement ne s'arrête jamais finalement parce qu'il y a toujours
des
nouveaux modèles à faire, plus de données, etc. D'ailleurs, à propos de plus de données, Sam Altman, encore lui, a annoncé une conférence OpenAI en novembre à San Francisco avec une keynote à la Apple, à la Google, à la machin.
Une conférence développeur.
Développeur, oui. Mais enfin, une conférence développeur, on sait bien qu'il va annoncer. Par exemple, je ne serais pas surpris d'avoir ChatGPT, GPT-5, là, tu vois, qui serait annoncé. Ouais. Et donc, voilà, quand on parle d'entraînement, y en a plein, quoi.
Mm-hmm.
Amazon demande désormais à ses auteurs de préciser s'ils utilisent de l'IA dans le contenu de leurs livres. Bon, c'est encore une question d'adaptation à ce nouveau monde de l'IA. Il était temps, oui, effectivement, qu'Amazon demande... Évidemment, il y a des gens qui vont essayer de frauder, mais s'ils le font, ils seront punis et bannis, etc. Donc voilà, désormais, on aura un moyen, je pense que ça va arriver, de savoir si un livre a été généré en partie en utilisant de l'IA. D'ailleurs,
oui, parce qu'il y avait des applis presque packagées, hein, qui savent te, à la fois te générer un roman, par exemple. Tu leur donnes vraiment, vraiment le squelette du truc, et eux te proposent les chapitres, les trucs, les titres de chapitres, vont faire l'illustration de la couverture avec un moteur génératif et le publient automatiquement sur Amazon. Oui, je comprends qu'Amazon dise « Attendez, excusez-moi, mais c'est-à-dire que si vous êtes tout à coup un nouvel auteur qui publie 120 livres dans le mois, il faut qu'on parle, quoi.
» Bah, c'est Amazon et les auteurs et leurs syndicats aux États-Unis qui n'étaient pas hyper contents, quoi. D'ailleurs, parlant de pas contents et d'utilisation intéressante de l'IA, l'IRS, le fisc américain, commence à utiliser l'IA pour aider dans les enquêtes sur des cas d'évasion fiscale compliqués, surtout pour des hedge funds, etc., qui font des deals à plusieurs milliards de dollars. Donc voilà, ça commence. Et dans la catégorie « c'est peut-être pas une super bonne idée », le Pentagone est en train de réfléchir à créer une flotte d'IA. Enfin, une flotte d'IA avec plein de trucs, air-to-air, land-to-air, sea-to-air, to-land, etc., contrôlée par l'IA. Alors, qu'est-ce que ça va inclure ? C'est des petits trucs, hein, genre des mini-bateaux, genre qu'on pose sur un comment ? Comme les trucs qu'on pose sur un lac, tu sais, le lac aux canards, ici ou là, ça,
ouais, c'est ça,
ça va
des,
de ça.
Des swarms, des swarms, drones, c'est ça.
Et tu dis, alors tout ça sera contrôlé par IA, il y aura des drones aériens, des drones maritimes, etc., des tout petits machins, des missiles, enfin, sommes-nous en train de fabriquer Skynet, quoi ? C'est un peu...
Comme à chaque fois, comme je dis toujours, what could possibly go wrong ?
C'est ça. Et le pire, c'est qu'ils y réfléchissent parce qu'ils savent que la Chine est en train de le faire.
Bah oui.
Donc... Tu dis, oui, si on le fait pas...
C'est toujours la course à l'échalote. Hein. C'est un peu terrifiant. C'est un peu... Oui, c'est vrai, c'est un petit côté Skynet. Mais en même temps, ils sont forcés de l'essayer. Tu vois, c'est le problème. Quand tu donnes plein d'argent à des gens, eh ben, ils créent tous les jouets dont ils ont envie.
Les 22 services ciblés par le DMA ont été révélés officiellement. Alors attendez, est-ce que j'ai la liste ? Je ne sais pas si c'est si important que ça. C'est en gros un petit peu les usual suspects. Hein.
And TikTok, the Facebook. Winner is... Ouais.
Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Messenger, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, Apple's App Store, etc. Ce qui est intéressant, bon, il y en a plus. Ce qui est intéressant à noter, c'est que certains... disent « Oui, mais en fait, c'est une erreur », comme iMessage, par exemple, ou certains services Microsoft, qui disent « Mais non, nous, on ne devrait pas être inclus. » Alors, il faudra aller revoir leur faut tenter, hein. Tu sais, c'est genre retente. Mais l'UE est en train d'étudier les raisons pour lesquelles ils disent « Bah non, nous, on ne devrait pas être inclus dans les gatekeepers. » iMessage, ça me paraît compliqué quand même de dire qu'ils sont pas un gatekeeper pour la communication sur les appareils Apple, vu leur part de marché. Mais on voit déjà commencer à arriver des outils, notamment chez WhatsApp. Il semble que la manière dont ils vont implémenter l'interopérabilité des messageries, parce que ça, c'est l'une des demandes du Digital Markets Act, pour implémenter l'interopérabilité, eh bien, il y aurait visiblement un onglet messagerie de tierce partie qui sera implémenté dans l'app WhatsApp. Donc, si on peut, et je ne sais pas comment on va envoyer un message à WhatsApp spécifiquement, peut-être qu'il y aura le numéro de téléphone à WhatsApp ou je ne sais pas. Mais donc, ça sera dans un petit onglet à part, ce qui est bon, ça sera implémenté, hein, ça marche.
Et puis c'est intéressant, c'est de voir ceux qui ont échappé, si tu veux, au truc. Ça, par exemple, il n'y a pas Bing, il n'y a pas Edge, il n'y a pas le navigateur de Samsung. Et je pense que là, c'est évidemment des questions de part de marché. C'est un peu curieux quand même.
Bah, où tu mets la barre et puis où tu choisis, évidemment, qu'il va y avoir des trucs. Je dis, mais là, attends, pourquoi ? Mais ouais, c'est normal. D'autres infos liées à ça qui sont hyper intéressantes, qui sont liées aux informations qui ont dû être révélées pour ces études à l'Union européenne. L'utilisation les revenus sur iOS et Android, on savait qu'ils étaient très différents. On parlait de environ 5 à 7 fois plus sur Apple, sur iOS, que sur Android par utilisateur. Et ben en fait, c'est encore plus, c'est-à-dire que sur iOS, Apple génère 10,40 dollars, on parle en dollars là dans cette étude, par utilisateur et par mois, et sur Google Play, c'est seulement 1,40 dollars. Donc, il y a, c'est presque 10 fois plus, quoi. Pas tout à fait, j'exagère. Mais on est bien à
c'est 7, assez logique, hein. C'est, Apple a encadré. S'il y a un truc sur lequel Apple a un quasi-monopole maintenant, c'est le milliard de personnes les plus riches de la Terre. Voilà.
Ouais.
Les 6 autres les intéressent moins et on voit que, évidemment, en termes de business, ça tient debout. Là, c'est pas les revenus d'Apple, c'est les revenus au global.
Oui, pardon,
des services,
les
de l'App Store et tout
sur,
ça. Voilà.
Les App Store, c'est ça. Ouais.
Dis, que sinon, par mois, quand même, hein. Ouais, bah, en train de faire le compte pour moi et ouais, de fait, ça le fait facile.
Sur l'App Store uniquement avec les abonnements et les, ouais.
Les apps et machin.
TikTok, deux choses du niveau de TikTok, ils ont ouvert leur centre de données européen. Ils en avaient déjà parlé, hein, mais il est ouvert maintenant. Il devrait être prêt en 2024 et. Quand ils auront fini, les données des utilisateurs européens seront sur ce centre et les employés chinois n'y auront pas accès, normalement. Hein, enfin, c'est ce qui est prévu. Donc, bon, il était temps. Et ils ont aussi un shop marketplace, une boutique pour les utilisateurs américains. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils voient plein de produits un petit peu aléatoires qui sont beaucoup de faux faits en Chine. Ouais. Voilà, le marketplace.
Bon, bah ça, alors si tu veux, ça, j'en profite. Je suis ahuri de voir les pubs sur lesquelles je tombe sur Facebook en ce moment. C'est terrifiant. C'est-à-dire que voir sur Facebook des pubs en vidéo pour des fausses montres Patek Philippe et Rolex.
Ah ouais?
En disant, ouais, c'est des réplicas, machin. Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'ils ont plein d'annonceurs, de machin. J'ai aussi vu une arme à vendre.
Mais ils annoncent que c'est
un truc en kit. Oui, enfin, ça n'en fait pas un truc légal.
Non, bien sûr. Mais...
C'est comme si... Non, mais c'est de la vraie drogue, hein, vous savez.
Origine garantie.
Je suis pas certain que faire une pub pour une arme à feu soit un truc légal en France. Moi, je peux vérifier, mais je ferai une capture la prochaine fois. Mais alors, je pense qu'ils ont vu que je suis allé voir quelques vidéos sur des montres, etc. Et donc, tout à coup, ils me sortent des trucs. Donc, c'est vrai, c'est sympa de pouvoir acheter une Patek Philippe pour 600 euros plutôt que pour 120 000. Mais ça n'en fait pas une bonne idée en termes d'annonceurs. Et bon, je pense qu'il y a aussi tout un système où c'est des annonceurs qui sont here today, gone tomorrow et qui changent de nom et qui machin. Bon, oui, mais enfin, n'empêche, là, il y a quand même une vraie responsabilité. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire grâce à Meta quand ils disent, attendez, on peut pas être on peut pas contrôler tout ce que les gens publient sur notre plateforme. Non, mais les gens qui donnent de l'argent, oui. Ça, je veux dire, là, t'as une responsabilité absolue. Et le nombre de trucs qui sont soit des escroqueries patentées, soit du faux de faux, enfin, des très jolis faux, hein, d'ailleurs, là, j'étais assez impressionné. mais là, le l'arme de poing, j'ai quand même une ligne rouge. J'ai été absolument ahuri. Je ne comprends pas comment ces gens fonctionnent. Je pense qu'ils ont, ils sont nés après le scrupule, quoi.
Eh ben, ils n'ont pas de scrupule à supprimer l'onglet news, l'onglet information dans différents pays, dont la France. Ils vont le supprimer ou le depreciate en décembre 2023. Moi, je ne l'ai pas chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas, mais vous vous souvenez, il y a eu un gros push pour des partenariats avec des sites de presse qui étaient présentés sur Facebook, etc. Et là, ils ont complètement... Alors, on sait que Facebook se désengage de l'information et de la politique et tout ça depuis un moment. Mais là, c'est également une nouvelle étape là-dedans. On parle un petit peu de Twitter avant de presque finir. Bon, juste pour dire un truc sur l'histoire d'Elon Musk qui a coupé l'accès à Starlink à l'armée ukrainienne au moment où ils allaient déclencher une attaque sur la flotte russe. En fait, il semblerait, d'après les dernières infos de Isaacson, qui a publié un livre sur Elon Musk, que en fait, c'est pas qu'il a coupé, c'est qu'il a pas ajouté la zone qu'avait demandé le gouvernement ukrainien pour pouvoir déclencher cette attaque. Il voulait couler la flotte russe, en fait. C'était il y a un an.
Oh ouais, et la flotte russe en Crimée, oui.
Ouais, c'est ça. Et Elon Musk a dit non, je le fais pas. Alors. Et parce qu'il avait dit, il avait peur que ça déclenche une apocalypse nucléaire. Alors qu'on sait à quel point il est client de la propagande russe, ça pose question. Mais, enfin, imagine comment la guerre aurait évolué s'ils avaient pu le faire. Et en même temps, enfin, Moi, je suis même pas clairement ça, moi, pas très fan de la Russie, hein, ni non. dans cette dans non, ce non. conflit ni ailleurs. Non. Donc forcément, je suis un peu. Mais même au-delà de ça, le fait que un acteur privé ait un tel pouvoir sur le déroulement d'un conflit armé, qu'on soit pour ou contre, je sais pas si. Tu vois, ça me dérange un peu, quoi.
Je déteste me retrouver dans la position d'être le mec qui va défendre Elon Musk, parce qu'à côté de ça, bref. Mais je peux comprendre l'espèce de position absolument, enfin terriblement inconfortable dans laquelle il s'est retrouvé, parce qu'on rappelle qu'en fait, c'est lui au début du conflit en Ukraine qui dit, il faut quand même que les Ukrainiens puissent se défendre. Tiens, je vais activer Starlink et leur donner des dizaines, voire des centaines de milliers d'antennes. Et là, c'est ça, a priori, ce que raconte Isaacson, c'est qu'un jour, les Ukrainiens l'ont appelé en disant « Vous pouvez étendre la couverture jusqu'à Sébastopol ?» Ah non, mais Sébastopol, c'est la flotte russe en Crimée, donc c'est-à-dire qu'en gros, si je vous ai filé des trucs en disant « Voilà, je vous aide, comme tout le monde a envie de vous aider, à essayer de vous défendre », tout à coup, vous vous retrouvez dans une position plus offensive, etc. Enfin, tout à coup, vous me transformez comme un outil
C'est-à-dire qu'on aurait pu dire... En dehors de la de pour qui on est dans cette guerre, il y a pas deux camps, hein, là on n'est pas dans un, mais bon, il y a un camp juste et un camp qui est pas juste, mais au-delà de pour qui on est, on aurait pu dire c'est Elon Musk qui est responsable d'une bataille terrible.
Ah bah, ou dire sans Elon Musk il n'y aurait pas eu d'attaque sur la flotte russe.
Non mais même plus, effectivement que...
Tu vois, et là, tu fais pouce, quoi. Attends, excusez-moi. D'autant qu'en plus, tu vois, Starlink, à la base, est un truc purement civil, qui, on le rappelle, devait être dans l'ensemble plutôt pour des trucs purement stationnaires. Enfin, donc, ils ont ouvert les vannes en disant, non, mais OK, on va vous aider. C'est à ce moment-là aussi, ils ont dit, à un moment aussi, peut-être qu'il faudrait songer à nous payer. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Il s'est pris une volée de bois vert en disant c'est affreux, t'es un dégueulasse, c'est vrai. Et le bouquin le raconte, moi j'attends le livre, le patron de SpaceX, donc le DG de SpaceX, à un moment, c'est un peu énervé parce que Elon, devant ce truc-là, a fini par dire non, mais c'est bon, ok, continue à pas payer, c'est bon, voilà, voilà. Et le patron de SpaceX était comme un fou en disant non, mais attendez, moi j'avais quasiment le département de la défense qui avait un chèque de 145 millions de dollars à mon nom pour nous dédommager. Et Elon a dit non, c'est bon, ça va, gardez votre argent. Donc, je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué. C'est bizarre. En fait, c'est une situation bizarre. C'est-à-dire que c'est bizarre de se retrouver dans une situation où un acteur privé, quel qu'il soit, est amené à prendre ce genre de décision. Mais ça n'aurait jamais... Ça n'aurait jamais dû arriver jusque-là. Mais en même temps, si les Ukrainiens n'avaient pas eu Starlink au début... je pense que peut-être que l'issue de la guerre aurait pu être différente. Donc c'est difficile de se plaindre que Starlink ait été là, mais en même temps je comprends l'inconfort absolu de la position dans laquelle il s'est retrouvé à un moment en disant attendez, tout à coup je deviens le truc qui drive les drones là. Stop.
Oui. S'il avait pas été le porte-voix de Vladimir Poutine pendant cette période de la guerre, même si elle avait été la même, aurait posé moins de moins d'émoi, tu vois.
C'est plus compliqué parce qu'il aurait aussi juste pu dire non aux Ukrainiens dès le début en disant je suis désolé, moi je fais pas ce genre de choses, je suis une technologie statique.
Non, bien sûr, mais c'est ce que je dis. Voilà. S'il avait dit ça sans être. Tu te souviens de son. Enfin bon, bref, on va pas repartir sur la question de la guerre en Ukraine.
Il avait dit il va falloir trouver une résolution à ce conflit, on peut pas être dans l'escalade complète, j'ai très peur d'une guerre nucléaire.
Il a complètement gobé la version russe de la il faut arrêter la guerre, trouver une résolution pacifique.
Oui, tout à fait. Bien sûr.
Et donc les Russes restent où ils sont et maintenant au moins on a la paix. Enfin, je vais pas déconner.
C'était pas une bonne idée. Mais je pense qu'il s'est mis dans un truc dont il pouvait plus ressortir en fait, tout simplement. Sur un bon réflexe au début. Hein.
Un truc surprenant. Mike Masnick. Est venu à la défense, mais a soutenu une décision, une action en justice de Twitter / Elon Musk / X. Ça arrive pas tous les jours, ça. Mike Masnick, c'est l'éditeur de TechDirt, qui est un immense défenseur de, un très grand opposant à Elon Musk, il est parti de Twitter, enfin tout ça. Et il se trouve qu'il est très opposé à une loi californienne qui veut contrer la haine en ligne qui impose aux gros réseaux sociaux de dévoiler les détails de leur algorithme. Entre parenthèses, il y a des trucs un petit peu similaires dans le DSA, ou le DMA, l'un des deux. Donc ça, c'est marrant. Mais Twitter, enfin X, a fait un procès pour, a lancé un procès pour bloquer cette loi sur la base qu'elle entrave la liberté d'expression de la société qui, aux États-Unis, les sociétés ont droit à la liberté d'expression. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui peuvent faire des donations politiques. Enfin bref. Et donc, qui entrave la liberté d'expression des sociétés. Et d'après lui, d'après Masnik, bah, c'est un bon moyen, justifié légalement, contrairement à ce qui s'est passé par le passé, justifié légalement de bloquer cette loi qu'il n'aime pas. Donc, c'est pas tant pour parler de la loi elle-même que pour dire que bah, tout arrive. Mike Masnik était content d'une action en justice de Elon ouais. Musk. Et j'aurais jamais cru voir ça un jour, quoi. Oui, entre parenthèses, on n'en avait pas parlé, mais toujours du côté de ce que fait Twitter, ils ont visiblement limité le nombre de liens qu'on peut, qui mèneront vers le New York Times spécifiquement depuis Twitter. Il y a une chute du nombre de partages d'articles, je ne sais pas exactement comment ça marche techniquement, mais de 75% depuis juillet. Donc, le New York Times reçoit moins de trafic de Twitter. Et ça fait suite en plus au fait que il y a quelques semaines, on avait constaté que les liens Twitter qui lient au New York Times mettent 3 ou 4 secondes de plus à charger que les liens qui mènent vers d'autres publications. Donc, il y a une vraie intention de limiter l'envoi de trafic de Twitter vers le New York Times spécifiquement. Les autres, eux, n'ont pas le même problème, même Washington Post, Politico, etc., Wall Street Journal et d'autres publications. Et évidemment, venant du grand défenseur de la liberté de parole absolue que professait être Elon Musk, c'est un petit peu surprenant et frustrant. Mais ce genre de méthode, vraiment, je les aime pas, donc... tu vois, c'est ça qui est gênant avec lui. Je les aime pas, donc on va limiter le nombre de partages. Ça met plus de temps à charger, mais c'est dans quel monde on vit, quoi. Tu vois, c'est même plus une question de politesse sur le net. C'est que
non,
ça se fait pas. Ça se fait juste pas, quoi. C'est pas
Mais le truc, c'est sûr. En fait, c'est pas tant ça, parce qu'au début, je comprenais pas. Je disais, mais les gens ont partagé moins de liens, etc. Non, c'est sur leur propagation dans les tweets recommandés, c'est en ça. Fait, plus que dans tes abonnements.
C'est-à-dire que tu vas moins voir un tweet dans l'algorithme, dans l'algorithme
moins mis en avant.
Qui est moins mis en avant s'il y a un lien vers le New York Times. On est vraiment dans de la malhonnêteté, tu vois. C'est ça qui est. Et en plus, c'est pas public. On sait pas ça. Enfin,
c'est une version. C'est de la tambouille.
Il y a une version de l'algorithme qui a été rendue publique il y a quelque temps. Visiblement, non seulement ils se battent pour éviter d'avoir à changer leur algorithme, mais là, on ne savait pas ça dans l'algorithme que je sache. Donc,
non, si ça date de mi-fin juillet, c'était pas dedans.
C'est ça. Voilà. Donc, c'est frustrant parce que on connaît l'influence de Twitter et puis c'est vraiment juste Elon Musk qui a dit « bon, j'aime pas ». C'est tous les cauchemars... un petit peu ridicule du grand industriel qui va imposer unilatéralement sa volonté à un média qui se concrétise. Mm-hmm. C'est vraiment juste, j'aime pas le New York Times, donc fuck.
Je lis le papier, hein, pour tout te dire.
Ouais.
Mais oui, c'est un truc qui n'a l'air de toucher que le New York Times. Ouais, c'est vrai.
Et entre parenthèses, le responsable du brand safety chez Twitter, visiblement, s'est barré quelques mois après avoir été instauré, après que la précédente se soit barrée. Donc,
c'est un dur métier.
Google a changé le logo d'Android. Il est beaucoup plus moderne. Je trouve sympatoche.
Ouais, il est joli.
En fait, tu dis, ah bah oui, bah c'est le logo, je connais. Sauf que quand tu vois celui d'avant, bah celui d'avant, il est moche, quoi.
Oh, il est pas moche, mais il a fait son temps.
Le Pixel Pro 8 a commencé à leaker un petit peu partout. La conférence, ça sera en octobre, si je ne me trompe pas. C'est bizarre. Enfin, leaker et même être présenté, genre, c'est leaker de chez Google. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on le voit? Est-ce que c'est pour contrer la présentation d'Apple de ce soir, pour qu'on parle un peu aussi d'eux, mais du coup, il n'y aura plus rien à montrer en octobre pendant leur présentation, le 4 octobre? C'est bizarre, la stratégie de Google là-dessus, quoi.
Comme toujours, c'est un peu particulier parce que c'est un téléphone magnifique, mais dont on n'a pas toujours l'impression qu'ils sont faits pour être vendus. Enfin, c'est voilà, c'est juste, tu sais, comme toujours, Google qui montre la voie aux autres constructeurs en disant voilà maintenant le niveau de d'exigence et de qualité en dessous duquel c'est pas la peine de jouer.
Et bien sûr, ce soir, au moment où vous écouterez cette émission, bon, il y a, oui, juste de petits mots, Apple a signé avec ARM, on parle beaucoup d'armes parce qu'il y a leur entrée en bourse, ils ont signé jusqu'à au-delà de 2040. Évidemment, hein, tous leurs processeurs M machin, c'est des processeurs A machin, M machin, c'est basé sur l'architecture ARM. Et je ne sais pas combien ils payent ARM pour signer jusqu'en 2040, mais à mon avis, c'est pas...
C'est de la licence, hein, c'est le business. Ah, oui. Ouais, ça doit être massif. Hein, ça doit être au moins autant que ce que Google paye Apple pour être le moteur de recherche par défaut.
Ah oui. Non, mais c'est devenu une partie hyper importante de leur business, de leur image, de leur performance. Et ils ont aussi re-signé chez Qualcomm. Apple a essayé pendant très longtemps de faire des puces, des modems en fait, des puces réseau. Ouais. Et il s'était beaucoup énervé contre Qualcomm qui réclamait des royalties, machin. Il y a quelques années, ils avaient signé avec Qualcomm jusqu'à fin 2003. Ben là, ils ont re-signé. Et tout le monde pensait, en fait, qu'Apple ferait ses propres puces après ça. Oui. En fait, ils ont re-signé jusqu'à 2026. Alors, est-ce qu'en 2026, ils feront leurs puces réseau eux-mêmes? On ne sait pas.
Et entre où est-ce qu'ils continueront que, où est-ce qu'ils commenceront avant hein.
Que l'un des trucs que Huawei avait réussi, qui était exceptionnel, c'était d'avoir des puces qui intégraient la puce 5G, qui réduit encore l'empreinte. Mm-hmm. Mais oui, pardon, tu disais, où est-ce qu'ils s'arrêteront avant de
Non, mais ils n'ont pas forcément... Mais si tu veux, ils n'ont pas un seul produit, donc c'est d'abord une garantie d'approvisionnement pour eux. Mais si tu veux, ils ont continué à faire du Macintel après avoir présenté le M1, tu vois, c'est pas...
C'est vrai.
Les deux sont possibles.
Mais ou peut-être qu'ils se sont dit, bon bah merde, on va pas s'emmerder à faire des puces avec des modems, on va utiliser ceux de Qualcomm, ils marchent très bien. Et puis, en même temps, quand t'as les ressources d'Apple, il n'y a rien qui t'emmerde si ça te permet de simplifier les choses de ton côté. Quoi.
Ouais, la tentation de l'intégration verticale est très forte, hein, c'est un peu chez eux.
Et donc, pour finir, quoi attendre de cet événement que vous avez déjà vu de votre côté, sans doute, pour l'event Apple de ce soir, bah, des nouveaux iPhones, hein, les iPhone 15 et 15 Pro, une nouvelle montre, entre parenthèses, je suis sûr qu'on le répétera la semaine prochaine, mais une nouvelle montre Apple Watch qui ne sera pas un gros changement, il y aura un nouveau processeur, mais il devrait y avoir l'année prochaine, d'après l'inévitable Mark Gurman, l'année prochaine, un vrai redesign de la montre. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre pour en acheter une. Mais le gros truc, c'est les iPhone 15 Pro avec USB-C et 15, bien sûr. Et sur le 15 Pro Max, une lentille télescopique. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, pas télescopique, périscopique.
Oui, périscopique.
Un zoom x6 au lieu du x3. Et,
comme ce que Huawei faisait il y a 6 ans. Voilà,
5 ans, c'est ça, 6 exactement. Ans. Voilà. Oui, mais là, c'est Apple qui le fait, donc...
Et voilà, c'est pour ça que c'est important.
Bon, on en reparlera la semaine prochaine, donc on ne va pas passer trop de temps dessus. Une question, tout de même, à toi. Est-ce que tu crois qu'Apple va appeler l'USB-C USB-C, ou est-ce qu'ils vont l'appeler genre Lightning 2 ou
Super
Thunder,
Lightning, Thunder and Lightning.
C'est une vraie question, hein. Est-ce qu'ils vont s'approprier le truc, ou est-ce qu'ils vont juste l'appeler USB-C?
C'est compliqué de lui donner un autre nom. En même temps, tu sais, il y a deux choses. Il y a l'interface physique et puis ce que tu fais passer dessus. C'est-à-dire que Thunderbolt passe sur un truc qui ressemble à de l'USB-C. Enfin, qui ressemble, qui est physiquement
qui est de l'USB-C. Physiquement, ouais.
Voilà. Et pourtant, si tu changes le câble pour mettre un bête câble de recharge, ça coûte ton disque dur marche beaucoup moins vite. Donc, tout n'est pas interchangeable.
D'ailleurs, les iPhone 15 normaux devraient avoir une recharge moins rapide et un débit de données moins rapide que les pros.
Ah, je suis sûr que de toute façon, le câble Apple est celui qui va marcher le mieux.
C'est assez
cool. On peut compter sur eux là-dessus. Mais est-ce qu'ils vont changer le nom ils sont capables.
Non, moi je vais dire
ils sont capables. J'ai envie de dire non, mais ils sont capables.
Moi, je vais dire non, parce que c'est un niveau de ridicule qu'ils ne veulent pas... Mais en même temps, le problème, la raison...
Souvenez-vous de Retina, faire, tu vois, c'est... Ouais.
La raison pour laquelle ils voudraient le faire, c'est qu'ils vont vendre leurs câbles et les câbles certifiés.
Ah bah oui.
Alors Lightning 2 ou Super Lightning, s'ils le font, bah on a beau se moquer d'eux, il y a plein de gens qui vont se dire ah bah moi j'achète un câble Super Lightning parce que moi je suis tranquille, c'est Apple et c'est machin, tu vois. Et donc peut-être que quand même, peut-être. Merci Cédric, quel plaisir, quel bonheur de t'avoir encore une fois dans l'émission. On a parlé d'énormément de choses, c'était passionnant. Où peut-on te retrouver sur Internet si on en veut plus?
Sur Twix. Je l'appelle Twix maintenant, parce que Twitter/X, alors, Twitter, X formerly known as Twitter. Oui.
Il y a une autre version, c'est X-Eater, prononcé à la chinoise. Ce qui donne cheater.
Ça devient cheater, oui. C'est pas très...
Pas mal.
Non, je l'appelle Twix. Au moins, tout le monde comprend. At Cédric, pourvu que ça dure. Et sinon, je tiens à rassurer mes fans, le prochain épisode des Doigts dans la prise, le remarquable podcast que je fais sur la voiture électrique, sortira aux alentours du 5 octobre, à l'occasion d'un événement sur la voiture électrique. Voilà, vous irez voir ça en ligne.
D'accord, super, vers le 5 octobre, magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, hein, sur Twix, Mastodon, social, Blue Sky, je suis partout. Je suis également sur Twitch, on nous regarde d'ailleurs en live, c'est formidable, Note Patrick. Sur Discord, vous pouvez avoir tous les liens vers tout dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Et n'oubliez pas non plus patreon.com/rdvtech pour avoir le flux privé où il n'y a pas de pub, pas le sponsor de l'émission, pas toutes ces choses-là, et des contenus bonus en plus, des moments sympathiques passés en notre compagnie, avec les éditos, etc., etc. Donc, si vous appréciez l'émission, et puis en plus, bien sûr, comme toujours, vous le savez, la fierté, le bonheur de soutenir le Rendez-vous Tech et cette entreprise sympathique, familiale, artisanale, que vous pouvez soutenir de vos sous. Donc, patreon.com/rdvtech pour... soutenir l'émission. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous, bye bye.